les émissions des quartiers.
Pour un outil dédié aux habitants.
On m'a formé comme journaliste.
La radio part à votre rencontre.
À Ivry, il se passe des choses qui sont positives. Et juste, c'est juste pour en parler. Une radio, je pense que ça doit servir à ça.
Un espace d'expression complètement libre où chacun peut intervenir.
C'est aussi des rencontres, des échanges avec les jeunes, les moins jeunes.
Il faut parler ensemble, quoi. Faut y aller, faut dire toutes ces choses. C'est peut-être un peu ridicule, mais c'est ce qui fait la vie ensemble.
Les émissions des quartiers
sur Principe Actif.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau volet des émissions des quartiers. Aujourd'hui, nous nous sommes installés en extérieur, en public, j'allais dire quasi au soleil, mais non, nous sommes à l'ombre. C'est plutôt pas mal d'ailleurs, parce que nous n'aurions peut-être pas tenu une heure au soleil. Et nous sommes à la Ronce, à Évreux, où nous aurons l'occasion d'aborder tout un tas de thématiques. Alors, la Ronce, c'est une association qui a comme projet d'accompagner en tout cas les adultes handicapés sur les handicapés et les enfants, vous dites
d'abord les enfants, puisque nos services et nos établissements commencent de 0 jusqu'à 20 ans, disons jeunes adultes, et ensuite nous avons effectivement un service adulte pour les personnes au-delà de 20 ans.
Voilà. C'était Yves Lin que vous entendiez à l'instant. Nous aurons l'occasion d'échanger autour de cette thématique tout au long de cette émission. Nous recevrons Yves Lin, justement, président d'honneur, président sortant d'ailleurs cette année, Patrick Tuillier, président entrant du coup, et Eric Rechtenwald, pardon, excusez-moi, directeur général de la Ronce. Nous recevrons également Linda Segal, directrice de l'IM Pro, Wilfried Delosier, directeur adjoint du SRA, SACI et du COMSP. On vous rappellera dans quelques secondes à quoi correspond tout ça. Nous aurons également des jeunes qui participent à la vie de la Ronce, Alicia Léger, Anthony Hérault, et nous aurons également Monsieur Domingo qui participe au Conseil de la vie sociale. Voilà le menu pour cette émission.
Vous voulez du frais, du naturel ? Écoutez Principe Actif, 102.4 FM.
Et pour impacter cette émission, la propulser jusqu'à vos oreilles, nous avons une équipe de choc. Michel qui partagera le micro avec moi, Monsieur Pignon à la réalisation et notre amie Deuse qui a participé à l'organisation de tout ça et qui a fait du sujet. Voilà, je le disais en introduction, nous recevons Yves Lin, Patrick Tuillier et Eric Rechtenwald. Je vais galérer jusqu'au bout, hein, je vous préviens, et j'en suis désolé à l'avance. Un plateau de dirigeants, car nous avons le président d'honneur qui est le président sortant, le président entrant et le directeur général. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer le projet de l'association La Ronce ? Vous aviez un peu commencé, Yves Lin.
Donc je vais prendre un peu le relais, donc c'est Rechtenwald, mais je vous pardonne. L'allemand n'est pas facile à assimiler.
Ceci étant, espagnol en deuxième langue.
Voilà. Donc le projet de la Ronce, effectivement, c'est de prendre en charge des personnes qui ont des déficiences intellectuelles dès la petite enfance, avec du dépistage précoce, c'est-à-dire dès la naissance, avec les CAMPS, hein, Centres d'Action Médico-Sociale Précoce, qui sont avec une vocation départementale, mais qui travaillent en réseau aussi avec d'autres associations, notamment sur Pont-Audemer et demain sur les Andelys. En ce qui concerne les IME, c'est les instituts médico-éducatifs, donc qui, dès l'adolescence ou la jeune enfance, c'est en fait les cycles scolaires qui sont découpés en éducation spéciale et qui vont permettre justement à ces enfants soit de rester en milieu naturel accompagnés par des services d'accompagnement ou de rentrer dans des institutions plus spécialisées que sont l'IMP Julie Corallo ou l'IM Pro Pierre Redon, ici à Évreux, dont vous êtes, et un secteur adulte. Parce que la vie continue, hein. Et donc au-delà de 20 ans jusqu'à à peu près l'âge de la retraite, donc 62 ou 67, ça dépend comment on calcule, eh bien les personnes sont accompagnées soit à domicile, en ce qui nous concerne, c'est les SAVS, Services d'accompagnement à la vie sociale, donc en habitat urbain, avec effectivement des intégrations, et qui peuvent mettre en fait en pratique tout ce qui a été acquis au cours effectivement des établissements antérieurs. Et pour ça, il y a une association gestionnaire avec effectivement le président Eulin sortant après 20 ans quand même de présidence, c'est M. Thuillier qui va prendre le relais et dont je vais laisser la parole.
Concrètement, comment se met en place cet accompagnement là? Vous nous parliez de différentes institutions. Alors c'est un langage que nous ne maîtrisons pas complètement quand on parle d'IMP, IMPRO, CANSP, CRAS, ESSAD, SASI. Déjà, est-ce qu'on pourrait éclaircir tous ces termes pour les auditeurs qui ne font pas partie forcément de ce secteur médico-social?
Alors je vais reprendre simplement. C'est vrai que la MDPH, la maison du handicap, qui est le guichet unique pour l'ensemble des citoyens, permet effectivement de définir le projet de prise en charge par rapport à un handicap déclaré.
Donc là, c'est une prise en charge individualisée.
Individualisée,
du coup.
Mais qui est donc c'est dans la loi, si vous voulez, 2002, hein, qui est une loi spécifique à la prise en charge des personnes handicapées et une loi sur l'autonomie des personnes, qui est la loi de 2005. Donc à partir de là, la maison du handicap permet en fait de répertorier le besoin des personnes, accompagner des familles pour définir un projet de vie et un projet de prise en charge en fonction des besoins. Si c'est de la surdité, ça sent le centre de rééducation auditive. Si c'est effectivement une déficience intellectuelle avec un soutien scolaire, ça peut être le CESAD mille couleurs. Si c'est effectivement des apprentissages cognitifs à long terme, c'est l'IMP, Institut médico-pédagogique. Donc 6-16 ans. Et puis, si c'est effectivement dans la continuité de la prise en charge une volonté d'initiation à la formation professionnelle et d'insertion sociale, eh bien, ça sera l'IMPRO, Institut médico-professionnel, 16-20 ans.
Sur la prise en charge que Eric nous présentait, je me permets, hein, ça va être plus simple. Est-ce qu'il y a des évolutions? Est-ce qu'il y a eu des évolutions de prise en charge? Vous faisiez allusion à la loi de 2002, à la loi de 2005. Yvelin, notamment, qui est président depuis 20 ans, est-ce qu'il y a eu une évolution sur la prise en charge au-delà des lois?
Il y a eu des évolutions. Au départ, nous avions deux IMPRO. Nous avions un IMPRO fille et un IMPRO garçon. Ce qui était, une facilité qui était à l'époque lorsque les choses se sont faites, puisque l'IMPRO fille date de 73, et puis l'IMPRO garçon, c'était dans les années 69, voilà. Et donc, petit à petit, l'association a pensé que c'était un peu logique, étant donné que l'IMP était mixte depuis 51, puisque l'IMP date de 1951. Depuis 51, l'IMP, des enfants de 6 à 16 ans, était mixte. Et ensuite, on repassait sur un système où il y avait un IMPRO garçon et un IMPRO fille. Donc, nous avons émis le souhait qu'une étude soit faite pour pouvoir arriver à faire un IMPRO mixte, ce qui a été fait, puisque maintenant c'est l'IMPRO Pierre Redon est un IMPRO mixte. Et nous avons aussi profité du fait de la délocalisation. Alors le mot paraît est souvent un petit peu étrange quand on dit délocalisation, mais pour une fois c'est une délocalisation positive. C'est que nous étions avant dans des locaux qui étaient à Fontaine-sous-Jouy, au château de la Ronce de Fontaine-sous-Jouy, et c'était un domaine qui appartenait à la caisse d'allocation familiale de l'Eure. Et ils ont été tenus par l'État et par la Caisse nationale de vendre leur patrimoine. Nous avions deux solutions. Soit garder ces bâtiments-là pour l'euro, le franc à l'époque et après l'euro, parce que le temps que tout ça se fasse, symbolique, mais quelque chose qui était pratiquement irréalisable parce que les locaux n'étaient pas adaptés aux nouvelles normes de sécurité, d'hygiène et toutes les normes que nous sommes obligés d'appliquer. Et aussi, ça demandait des moyens de maintenance, d'entretien véritablement importants. De sorte qu'à cette époque-là, la DAS, parce qu'à cette époque-là, c'était la DAS, maintenant c'est l'ARS, mais à l'époque, c'était la DAS, nous a fait la proposition de reconstruire, de refaire un établissement neuf. Donc l'établissement de l'IMP qui se trouve maintenant à Buisson-Saint-Jean, c'est juste à côté de l'hôpital, le nouvel hôpital de Navarre. est un établissement entièrement neuf pour l'INP et nous avons donc ici rénové tout le site de la rue Lavoisier où vous êtes avec la création en face de vous d'un internat mixte.
Du coup, voilà, des équipements voilà, plus éclatés, voilà. Mais du coup plus neufs, peut-être plus adaptés également aux accueils,
bien sûr,
j'imagine.
Puisque...
Au-delà des équipements et des équipements adaptés en fonction de certains handicaps, il y a quand même toute une évolution. La Ronce, c'est 60 années de travail.
Ouais.
Enfin, c'est cette année d'ailleurs que la Ronce fête ses 60 années. Dans la façon dont est considérée la personne handicapée, j'imagine que ça a changé en 60 ans. Est-ce que ça, c'est des choses que vous constatez, vous, dans l'évolution,
oui.
J'imagine, positive. J'ose imaginer positivement.
Oui, tout à fait, parce que d'abord, l'association s'est ouverte sur son environnement. Hein, le fait de se recentrer sur le bassin d'emploi ébroïcien, ça a permis, effectivement, notamment à l'IMPRO, de solliciter le tissu des entreprises et de l'artisanat et aussi de la fonction publique pour accueillir des jeunes stagiaires avec un handicap. Ça a permis aussi de mettre en adéquation les équipements internes au regard des équipements existants, par exemple dans une cuisine centrale d'Évreux. Eh bien, vous avez ici pratiquement en modèle un peu plus réduit, bien évidemment, les mêmes outils d'apprentissage qui permettent justement une continuité d'insertion. L'habitat aussi, on a fait évoluer les modes de prise en charge, internat, puis des pavillons d'autonomie, puis des appartements à l'extérieur, ce qui fait qu'il y a une chronologie dans l'apprentissage de l'autonomie, et surtout, ce qui a fait aussi évoluer les choses, c'est que les familles sont de plus en plus sollicitées dans le projet et le parcours de vie de leur enfant.
Est-ce que c'est, alors, parce que je me posais une question au démarrage, je me disais, voilà, est-ce que l'objectif, au demain, c'est de créer un espace protégé pour accueillir ce public présentant un handicap, ou est-ce que c'est le préparer à retourner dans, je dirais, la vie ordinaire ?
Alors, en première instance, effectivement, il y a peut-être besoin de protéger pour essayer de construire avec lui et sa famille des outils et peut-être d'armer socialement les personnes à affronter l'environnement social qui est déjà pas facile pour dire l'homme sain. Hein, c'est-à-dire il y a 5 millions de chômeurs. Et nous, intégrer des personnes handicapées dans ce milieu très agressif où l'emploi est en contraction, c'est pas toujours évident. Donc oui, il y a une période d'abord d'adaptation, puis progressivement, en fonction des capacités de chacun, eh bien, c'est d'être une plateforme où on va permettre justement à l'extérieur de rentrer dedans et nous de complètement nous intégrer dans le tissu local.
Ce sont des dynamiques récentes, ça, d'essayer d'intégrer l'extérieur une quinzaine d'années,
une quinzaine
ce qui est
d'années.
Assez récent,
oui. À l'âge
finalement.
De Pierre, c'est tout à fait récent.
Est-ce que la Ronce développe des méthodes pédagogiques, des méthodes qui lui sont propres, voilà, chaque structure a ses particularités, est-ce que la Ronce a des méthodes particulières ?
On va laisser la directrice, Madame Segal, tout à l'heure, qui va prendre la parole.
Voilà,
non, pour pas en fait déflorer trop les choses, c'est vrai qu'on pourrait y répondre, mais je crois que c'est eux qui, dans le quotidien, mettent en pratique. Donc on va leur laisser la parole, mais oui, il y a effectivement ce qu'on appelle les ateliers d'application. C'est-à-dire on est dans l'essai-erreur et puis après on va en stage. On n'est pas dans le programme scolaire pur et dur. Mais ça, c'est tout un travail pédagogique que les équipes d'enseignants qui sont intégrées dans les établissements IMP et IMPRO, à travers le projet d'établissement, développent au quotidien. Donc on laissera Madame Segal et Monsieur Delosier en parler peut-être plus spécifiquement.
Oui, eh bien, on leur posera la question, bien entendu. Une question, du coup, plus pour le président sortant et le président entrant. 60 années de Ronce, là, qui sont fêtées cette année. Une passation de présidence qui s'est fait aujourd'hui ou dans ces jours, ce matin, voilà.
Ouais.
Est-ce que c'est un changement de politique ? Est-ce qu'il y a une continuité ? Est-ce qu'il y a un projet particulier par présidence ? Comment est-ce que ça se goupille, tout simplement ?
Donc, Patrick Thulier, nouveau président de la Ronce. Je compte continuer les projets établis sous la présidence de Yves Lin. Donc il y a dans les perspectives 2015-2016, il y a 3 grands projets. Il y a déjà la négociation du CEPOM pour les 5 années à venir.
Alors, vous pouvez en dire quelques mots.
Contrat CEPOM, pluriannuel d'objectifs et de moyens qui permet de stabiliser en fait les financements publics sur l'ensemble des actions de l'association.
Sur 5 ans. Deuxième projet, le projet Open, foyer d'accueil pour les adultes. en commun avec les Papillons Blancs, je crois.
Oui, les associations locales qui peuvent être l'ADAPT, les Papillons Blancs, c'est de créer en fait une plateforme d'accueil pour toutes les personnes en situation de handicap majeur qui sont en appartement et pour lesquelles les journées sont longues et parfois très angoissantes, parce que quand on fait rien, c'est pas toujours simple.
Et le troisième projet, c'est le SAMSA, avec, en partenariat avec l'association L'Abri et l'association Prépare-toi.
Voilà, donc pour compléter ce que dit, on vient de répondre favorablement. Donc à ces trois associations vont mutualiser leurs moyens. Donc c'est aussi une nouvelle ère qui s'ouvre dans la mutualisation des moyens pour impacter effectivement sur un territoire la capacité d'offrir des réponses adaptées aux personnes en situation de handicap et notamment sur l'accès aux soins.
On sent à travers le discours que vous tenez tous les trois qu'il y a quand même cette notion d'adapter à l'individu les propositions et pas avoir une réponse collective à une thématique qu'on pourrait catégoriser. Voilà. Merci à vous d'être passé par nos micros. Yves Lain, président sortant et président d'honneur. Patrick Tuillier, président entrant. Et Eric Richtenwald, directeur général de la Ronce.
Merci
à vous. Nous repartons en musique et nous retrouverons juste après Linda Segal et Wilfried Delozier.
Enough to be a blur snapped in high def. Nevertheless, you get blessed if you try test. F1 fighters coming right off of the flight deck. And if you're up for the challenge, be my guest. No contest, step to the draw. It's high noon, sucker, get clipped in the jaw. Did it sneak through the second that you blink? Go and find a sink, hold a high, we will find where you are. You couldn't even hang with a noose. Adolf Caesar yelling, sweep the caboose. Old mister, strapped to come get ya. Last snap and sepia tone, a grim picture. So take your best shot, we the best out. Spit it to the drum beating in your chest pop. Get your head nodding till you throw your neck out. And there's no need for the front, you suggest stop.
You ain't gonna see me coming. Got a quick draw, you can't stop. You ain't gonna see me coming. So take your best shot. You ain't gonna see me coming. You can't stop, you ain't gonna see me coming. So take your best shot.
With 100 bars, who can withstand the onslaught? None of y'all. So if you wanna draw, bring a pad and a pencil, cause none of that mess belongs on an instrumental. So keep that hand away from your hip, bam. This is heat no ordinary man can withstand. If and when you decide to, you better have your entire crew right there beside you. Otherwise, without those other guys, you're the only one that's getting an uncomfortable surprise. Allow me to summarize and give you the synopsis. Time to make your choice, fool, you're running out of options. This here's your last chance, don't even try to advance. Recognize you're standing in the path of a madman. But you're not worth me even using a verse. So I just drop the mic and catch you faster with a backhand.
You ain't gonna see me coming. Got a quick draw, you can't stop. You ain't gonna see me coming. So take your best shot. You ain't gonna see me coming. Got a quick draw, you can't stop. You ain't gonna see me coming. So take your best shot.
Gangsta Grass. Et puis merci Monsieur Pignon de m'avoir épargné ce titre en anglais imprononçable.
Vous n'avez plus qu'une qu'une chose à faire, branchez-vous 102.4 FM, Radio
Principe Actif.
Nous sommes toujours en direct, en live, en public, en extérieur, dans le vent de la Ronce à Évreux, où nous animons un plateau radio autour de justement des 60 ans de la Ronce et de la journée porte ouverte où vous pouvez venir nous rejoindre. La porte ouverte, c'est justement toutes les personnes qui se posent des questions de venir les poser. Pardon, vous me dites ? Ah bon. Et nous recevons maintenant en plateau Linda Segal, directrice de l'IM Pro, et Wilfried Delosier, directeur adjoint du SRA SACI CANSP. Je vais vous demander déjà en un premier temps de nous expliquer à quoi correspondent toutes ces abréviations. Linda Segal, l'IM Pro, qu'est-ce qu'un IM Pro ?
Donc, l'IM Pro est un institut médico-professionnel. Établissement où nous accueillons 80 adolescents âgés de 14 à 20 ans et plus dans certaines circonstances pour des jeunes en attente de solutions d'orientation.
D'orientation professionnelle
Orientation professionnelle ou orientation de vie, effectivement. Certains adultes rencontrent encore des difficultés pour aller travailler en structure protégée et dans ce cadre, après, ils peuvent être orientés vers des structures adultes, foyers de vie, foyers occupationnels.
Voilà, ça va être une étape dans leur parcours, l'objectif étant qu'ils sortent de l'IM Pro. C'est pas un projet à long terme, l'IM Pro, c'est un passage pour pouvoir accéder à
complètement.
Autre
chose. Voilà, le terme passage, effectivement, est un terme qui m'est cher. Hein. Nous ne sommes qu'une étape dans le parcours de l'adolescent et nous essayons de le préparer au mieux à affronter effectivement une vie active au sortir de l'établissement.
On y reviendra dans un petit instant. Wilfried Delosier, vous êtes directeur adjoint. Alors là, ça va être plus compliqué. Du SRA, du SACI et du CANSP. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu à quoi correspondent ces abréviations qui nous sont barbares encore ?
Oui, aucun souci, bonjour. Alors on va commencer par le CAMS, c'est évident de commencer par le CAMS, donc Centre d'accueil, Centre d'accueil médico-social précoce. L'idée, c'est de pouvoir accueillir des tout-petits dès les premiers mois et de pouvoir répondre à des questions que peuvent se poser des familles sur est-ce qu'il y a un handicap ou pas, est-ce qu'il y a un retard ou pas, est-ce qu'il y a des difficultés rencontrées ou pas. Donc c'est de pouvoir mettre des mots et de pouvoir diagnostiquer ou pas un handicap dès les premiers mois de la vie. Sachant que le CAMS s'occupe de faire autant du dépistage que de la prévention, du diagnostic et aussi des accompagnements dans les premiers mois.
J'imagine du coup que vous adressez aux enfants, bien entendu, mais également aux familles qui ont la charge de ces enfants.
Exactement. Du coup, c'est autant la partie diagnostic, bilan, évaluation et essayer de comprendre autant que possible quelles sont les difficultés rencontrées par l'enfant, que de travailler aussi en guidance familiale et de pouvoir accompagner les familles autour des difficultés, autour du diagnostic, autour de la compréhension des difficultés rencontrées et puis autour de quel pourrait être le projet à venir de leur enfant. Voilà. Donc, concernant le CRA et le SACI, donc les deux établissements sont des... on va commencer par le CRA, Centre de rééducation auditive. Donc le CRA s'adresse uniquement à des enfants qui sont en situation de surdité. Donc un exemple de parcours, beaucoup sont passés par le CAMS avec des premiers signes observés qui très vite donnent lieu à un diagnostic et à une découverte de surdité. Et du coup, il peut y avoir une orientation vers le CRA qui, elle, va vraiment être de la rééducation autour de la surdité et autour de ce que va être le parcours des enfants autour de la scolarisation, de la socialisation, etc., en lien avec leur surdité.
Alors, dans cette notion de rééducation auditive, est-ce qu'il y a une notion d'amélioration, j'ai envie de dire, du handicap ? Est-ce qu'on est dans cette notion de rééducation ?
Alors, il y a une notion d'amélioration, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il y a déjà une notion d'évaluation, de bilan et de savoir exactement où en est l'enfant. En ce qui concerne la surdité, il y a plein de sortes de surdité. Il peut y avoir une surdité légère, il peut y avoir une surdité profonde. Cette surdité peut nécessiter un appareillage ou pas, elle peut nécessiter une implantation ou pas. Donc voilà, il y a déjà plein de mots barbares et plein de techniques qui se greffent à ça. Et au-delà de la rééducation, va s'ajouter à ça, être en situation de surdité, c'est pas uniquement être sourd. C'est être sourd au sein d'une classe, c'est être sourd au sein d'une famille, c'est être sourd au sein d'un milieu social global. Donc c'est rééduquer et accompagner sur toutes ces questions-là.
Et puis le SACI.
Le SACI, donc, pour faire court, on est un peu dans la même logique que l'accompagnement proposé au CRA, sauf qu'il s'adresse à des enfants qui ont des troubles des apprentissages. Donc ce qu'on appelle actuellement les 10, c'est-à-dire dyslexie, dysphasie, dysorthographie. Où là, la logique du service, donc c'est service d'aide et de soins à l'intégration. L'idée, c'est aussi de favoriser au maximum l'intégration scolaire et l'intégration des enfants qui présentent ces troubles du langage.
Mais au final, les services que vous proposez, au final, comment les familles, justement, elles vous trouvent ? Comment on vous trouve ? Combien on vient à vous ? Est-ce que c'est vous qui allez chercher les familles ou est-ce qu'on vient directement à vous ? Enfin, comment ça se passe ?
Alors ça c'est très variable selon les types d'établissements, selon les situations. Bien souvent, les premiers signes qui alertent, ce sont les premiers à voir les enfants, c'est-à-dire l'école, souvent les familles elles-mêmes, qui détectent assez rapidement la surdité. C'est bien souvent des familles qui s'alertent parce que leur enfant ne répond pas, parce que lorsqu'il y a des bruits, il ne réagit pas. Voilà, il y a des premiers signes. Bien souvent, c'est le premier relié, c'est l'école, c'est le médecin de famille. Et après, très vite, des dispositifs peuvent exister. Donc, c'est le cas du CAMS. C'est justement d'essayer assez rapidement de mettre des réponses. Et donc, après, tout au long du parcours, les familles vont entendre parler de services de rééducation. Pourquoi pas d'un IM Pro si ça correspond au profil de leur enfant. Voilà, ils vont petit à petit entendre parler de tous ces établissements qui existent. Mais bien souvent, le premier contact, c'est la famille elle-même, son médecin, l'éducation nationale, éventuellement la PMI. Voilà, c'est souvent par ça que ça commence.
Nous évoquions sur le premier plateau avec l'équipe dirigeante un tas de choses. Et puis quand on leur a posé la question, c'est y a-t-il une méthode, y a-t-il des pédagogies propres à la ronce ? Ils nous ont dit, voyez ça avec les professionnels. Donc on va voir ça avec vous tout de suite. Y a-t-il des méthodes, des pédagogies particulières propres à la ronce ?
Je pense que chaque établissement...
Et quelles sont sinon les méthodes du coup ?
Chaque établissement de la ronce a ses propres méthodes. Donc après, si on est sur un accompagnement très spécifique, comme par exemple la surdité, forcément ça va poser la question de méthodes médicales ou outillage, appareillage, etc. Mais ça pose aussi la question de ce qu'est la communication, de l'apprentissage de la langue des signes. Donc la langue des signes, c'est une méthode par exemple particulière pour penser la communication avec des enfants sourds. Au sein du SACI, il va y avoir des méthodes particulières pour penser ce que c'est qu'apprendre quand on a un trouble 10 et quand on a une dyslexie ou quand on a une dysphasie. Il y a une manière particulière d'apprendre, il y a une manière particulière de s'exprimer.
Vois tout à l'heure, j'ai assisté à une démonstration de cartes, par exemple. Il y avait un système de cartes associé. C'était sur une promenade là dans les couloirs qui sont juste là. J'imagine que voilà, ce sont des outils très concrets que vous employez.
Voilà, je pense que
des jeux peut-être.
Je pense que ça faisait référence, alors soit sur le CRA à des outils jeux qu'on connaît tous, type qui est, etc., mais qui sont réadaptés en langue des signes pour des enfants sourds. Ou alors un établissement comme le CAMS, il va y avoir des outils spécifiques pour des personnes avec autisme, parce qu'il peut arriver que dans les tout-petits, les troubles diagnostiqués soient de l'ordre de l'autisme. Donc, après, sur l'IM Pro, il y a d'autres outils, d'autres ateliers existants qui sont des méthodes d'accompagnement aussi.
Oui, après, c'est effectivement le principe du projet individualisé, où chaque enseignement, enseignement scolaire, nous disposons de 4 enseignants mis à disposition par l'éducation nationale, des éducateurs techniques sur les apprentissages préprofessionnels, et on est vraiment sur quelque chose de très adapté au handicap, à la situation du jeune, où les enseignements, on mettra vraiment en place tout ce qui peut être utile aux jeunes pour avancer et apprendre.
Concrètement, sur l'IM Pro, je crois qu'il y a une menuiserie, il y a d'autres ateliers. Comment ça se passe ? Quels sont les ateliers et comment, concrètement, la journée se passe ?
Donc, les ateliers dont nous disposons sont un atelier menuiserie, un atelier espace vert, un atelier multiservice, multibâtiment, un atelier communément appelé APR, c'est agent polyvalent de restauration, un atelier ADVF, assistant de vie aux familles, et j'en oublie sûrement, un atelier de préparation à la sortie également.
C'est quoi l'atelier de préparation à la sortie ?
C'est un atelier, on travaille en partenariat avec les structures adultes du département, les ESAT en particulier, qui nous donnent des travaux à faire, ce qui permet de préparer aux jeunes, les jeunes au travail qui peut les attendre dans les ESAT. Alors, Quand les ESAT n'ont pas de travail à nous donner, c'est effectivement des partenaires de la ville qui peuvent nous donner des travaux à recycler.
Et alors du coup, je ne sais pas, sur l'atelier menuiserie, par exemple, quelle a été la dernière commande? Comment ça s'est mis en place? Ou sur un autre atelier alors, peut-être?
Oui.
Je dis la menuiserie parce que ça me parle un peu plus à moi. Mais
alors... notre mission n'est pas de former des menuisiers ou des peintres bâtiments. On est vraiment sur les savoir-faire, les savoir-être, tout ce qui est consignes de sécurité, compréhension des consignes. Donc les derniers chantiers, si vous avez fait un petit peu le tour, et je sais que c'est le cas, vous avez vu des tables extérieures, ce sont les jeunes des ateliers qui ont construit ces tables, et voilà, ils les entretiennent, ils les respectent aussi, c'est eux qui ont fabriqué. On a dans les couloirs des ateliers plein de petites potences avec le nom des professionnels. C'est des choses qui ont été faites également au niveau des ateliers. Après, on répond à quelques commandes, à quelques chantiers extérieurs sur des choses très, très particulières.
Du coup, voilà, c'est une fois de plus, et c'est ce qui ressort par rapport au premier plateau que nous avions eu, c'est adapté aux besoins, individualisé, le suivi est individualisé.
En sachant effectivement que les jeunes sont accueillis en journée, mais également sur des temps d'internat, encadrés par des professionnels, participer à tous les actes de la vie quotidienne, aller faire des courses, acheter à manger... Une des nos chances, c'est effectivement être au proche de la cité et tous les jeunes bénéficient des transports en commun et toutes les activités proposées sur la cité d'Évreux.
On parlait justement des ateliers qui sont mis en place pour les jeunes, mais est-ce que justement c'est fait en fonction aussi de leurs envies, comment eux ils le prennent,
Alors quand un jeune est accueilli dans l'établissement, il va être accueilli sur ce qu'on appelle le groupe d'accueil, qui va permettre effectivement d'aller découvrir un petit peu les différents ateliers qui existent. Et au bout d'un moment indéterminé, parce que en fonction de chaque jeune, la durée peut être plus ou moins longue. Le jeune va demander à être plus particulièrement dans un atelier menuiserie, espace vert, et en fonction du projet qui sera rédigé pour ce jeune, des places disponibles aussi, on répondra à sa demande pour pouvoir se rendre dans cet atelier.
Mais tout à l'heure, on parlait aussi de cette notion de passage. Est-ce que après, justement, il y a quand même un suivi de ces jeunes qui sont passés par l'IM Pro et qu'on suit ce qu'ils font après, quoi.
Alors tout au long de son parcours, le jeune effectuera des stages en entreprise, en milieu protégé, pour aller découvrir un petit peu le métier. Quand on leur dit tout le temps, il faut être à l'heure dans les classes, dans les ateliers, quand ils vont travailler, c'est comme ça. Et quand le jeune quitte l'établissement, il bénéficie du service de suite. Le service de suite est un service dépendant de l'IM Pro. Une éducatrice qui en charge de service peut accompagner les jeunes pendant 3 ans après leur sortie, si le jeune en fait la demande. Donc le jeune ait trouvé une solution professionnelle ou soit rentré au domicile parce qu'il est en attente de solution, il peut tout à fait solliciter l'intervention de l'éducatrice du service de suite. Voilà.
Eh bien, merci à vous, Linda Segal et Wilfried Delosier, d'être passés par nos micros. Nous repartons en musique, juste avant de retrouver... Non, je ne vous dis pas. Allez, on y va parce qu'il va falloir qu'on choisisse.
C'était une musique de Budos Band. Et tout de suite, nous allons écouter un sujet que Damien a tourné tout à l'heure. Il a tendu notre micro à un étage où se passaient plusieurs ateliers, notamment un atelier cuisine et un atelier bien-être.
Bonjour, ça sent très bon ici. Bonjour.
N'hésitez pas à en rentrer, hein. Vous êtes bienvenue.
Ouais, mais seulement si je peux goûter.
Voilà. C'est possible, tout est négocié, vous voyez, avec la responsable.
En fait, ici, cuisine tout au long de l'année sous forme d'atelier ou c'est le lieu de groupe où on prépare la cuisine, en fait?
C'est tous les mercredis après-midi de l'année.
D'accord. Où en fait, on s'inscrit à l'avance et on...
Oui.
D'accord.
Complètement. Après, il y a des jeunes qui viennent toutes les semaines. J'ai des habitués, Charlène qui est là, Gwendoline qui est là aussi, qui viennent toutes les semaines.
D'accord. En fait. Et forcément, aujourd'hui, dans le cadre de cette porte ouverte, on ouvre l'atelier pour montrer ce qu'on fait à l'année.
Tout
d'accord.
À fait.
D'accord.
Tout
c'est
à fait.
Cool.
Donc, avec un fonctionnement un peu différent, du coup, pour aujourd'hui.
Bien sûr. Salé, sucré, mélangé, ou il y a des gens, on a des orientations, des thématiques
Alors, c'est essentiellement de la pâtisserie. J'aimerais cool. beaucoup pouvoir y faire aussi du salé. Mais un jour viendra où je pense que ce sera sur toute la journée, comme ça je ferai du salé le matin et du sucré l'après-midi. Pour le moment c'est que du sucré et avec parfois des thématiques. On peut faire par exemple des après-midi macarons, une journée macarons, c'est déjà arrivé. Ça c'est prévu à l'avance, les jeunes le savent et s'y inscrivent longtemps à l'avance.
Super, alors ça fait voilà. que ce couloir il est rempli en fait d'espace atelier parce que je vois en face bien-être.
Oui.
J'ai cru voir quelqu'un ressortir en blouse. C'est un peu l'étage atelier.
On oui, atelier activité.
Atelier activité. Et atelier actif qui sent bon pour le coup.
C'est ça.
Merci
ça
beaucoup.
Si vous voulez une petite gauche.
Non, c'est gentil. C'est gentil, merci beaucoup. Je balade mon micro. Merci. Alors je reviens avec mon micro pour le coup.
Moi je ne peux pas parler, je vois.
C'est pas vrai, c'est fini. C'est vous qui menez cet atelier du coup?
Enfin, oui,
c'est tout ce qui passe.
Oui, moi c'est un atelier, on appelle mais ça comme ça.
Mais c'est un atelier.
Ça.
Du coup, le bien-être, ça passe aussi bien par du massage de relaxation que je vois, il y a de l'outillage de maquillage.
En fait, de l'esthétique, voilà. D'accord. On peut faire les manucures, le maquillage, les coiffures. Après, on fait un petit peu d'épilation aussi.
D'accord.
Donc, c'est large.
Et les jeunes ou les moins jeunes s'inscrivent dans un cycle où on peut venir ponctuellement dès lors qu'on s'inscrit la semaine d'avant, où on vient vraiment pour quelques séances, il y a un atelier par exemple qui nécessite plusieurs jours.
En fait, c'est vraiment du cas par cas. Il y a des jeunes pour qui ça fait partie de leur projet, travailler sur la valorisation de leur image, et donc du coup qui s'inscrivent sur des périodes de 6 mois, voire 1 an. Et il y en a d'autres qui viennent aléatoirement, selon les semaines. Donc les inscriptions se font le lundi pour le mercredi, parce que c'est des activités essentiellement basées sur le mercredi. Donc voilà, c'est vraiment au cas par cas.
Cool. C'est bien là, toi t'es bien là, bonjour. Ouais. Tu pratiques l'atelier toi à l'AD, ici? Un petit peu?
Que le micro.
En tout cas, je vois que t'es un petit peu maquillée. Alors
oui.
Je sais pas si ça a été fait ici ou pas, c'est joliment fait.
Merci.
Est-ce que maintenant tu sais le faire toute seule ou t'as justement encore besoin de conseils?
Non, je sais le faire toute seule.
D'accord. En tout cas, l'endroit est chouette. Deux tables de massage ou en tout cas de relaxation, des miroirs partout forcément. Voilà, du maquillage. Non, mais c'est cool. Merci.
Voilà, un bel équipement.
Ouais, c'est cool.
Voilà, c'était la visite de Damien sur un des ateliers qui était ouvert aujourd'hui à la Ronce, car c'était porte ouverte. Nous poursuivons justement, Damien a enclenché le sujet des ateliers. Nous recevons justement deux jeunes qui participent aux ateliers de l'IM Pro, Alicia Léger et Anthony Hérault, et également Monsieur Domingo, qui est représentant des parents d'élèves et qui siège au Conseil de vie sociale. Bonjour à vous. Alicia, bonjour. J'ai envie de commencer avec vous. Vous me disiez que vous êtes actuellement en atelier. Alors, oui. Comment ça se passe, les ateliers? Dans quel atelier êtes-vous?
En ADVF.
Alors, ADVF, nous disions...
Assistant de vie aux familles.
De vie aux familles. Alors, ça se passe bien pour vous, cet atelier? Concrètement, comment se passe cet atelier? Le matin, à quelle heure vous commencez? À quelle heure vous finissez? Et qu'est-ce que vous y faites?
Ben, on commence à 8h30 et on finit à 11h30.
Après, vous faites des cours, j'imagine?
Oui, en cours, oui.
Voilà,
de français, de maths, et on apprend à porter secours, tout, je crois.
Donc ça, c'est la spécificité de la vie familiale. C'est-à-dire que comment on porte secours si jamais l'occasion se présentait. Bah oui, hein, c'est les matières générales. Et puis l'après-midi, vous êtes toujours en atelier.
Ou en accueil.
En quoi consiste l'accueil ? Qu'est-ce que c'est l'accueil ?
C'est en attendant de trouver un atelier.
D'accord. Et vous avez des entretiens, j'imagine. Vous échangez autour, vous discutez de la situation, de ce que vous allez faire, de comment se passent les choses, peut-être.
Oui.
Qu'est-ce que ça vous apporte,
plein de choses.
Alicia ?
Je sais pas, plein de choses.
C'est-à-dire des contenus, des techniques de travail, des apprentissages, des je sais pas moi ce que ça. Voilà, des. Vous êtes sur votre premier atelier ?
Non.
Non.
J'ai fait plusieurs.
Alors, quels autres ateliers avez-vous fait ?
J'ai fait le menuiserie.
Menuiserie.
C'est tout, je crois.
Alors, en menuiserie, qu'avez-vous fait ?
J'ai coupé du bois, tout.
C'est quelque chose que vous aviez déjà fait avant d'être en atelier menuiserie, de couper du bois, de travailler le bois ?
Non, c'est la première fois que j'en fais.
C'est quelque chose qui vous a plu ?
Oui, un petit peu.
Oui ?
Oui.
Je vous propose que du coup on échange également avec Anthony Hérault. Alors vous êtes en atelier depuis
Espace Vert.
Espace Vert. Vous me disiez que vous aviez commencé lorsque vous êtes rentré à l'IMPRO par l'Espace Vert déjà.
Oui, c'est ça.
Comment se passaient vos journées sur l'atelier et comment se passent d'ailleurs actuellement vos journées sur l'atelier Espace Vert ?
Bah, j'ai commencé à travailler avec des outils et après, de semaine en semaine, j'ai commencé à travailler avec des machines.
Enfin, quel type de machines du coup il y a là pour
tondeuse, débroussailleuse, taillée, pas encore. C'est une chose que je vais faire
par la suite.
Ouais, par la suite. Ouais.
Au niveau de l'atelier, j'imagine, Espace Vert, on en apprend aussi sur les végétaux.
Oui,
j'imagine
voilà.
Que vous devez apprendre des choses autour de bah, ça, c'est plutôt un truc divers, ça, c'est feuillu,
c'est
ouais. Cornu, j'en sais rien. Enfin, je ne sais pas, mais j'ai pas fait l'atelier Espace Vert. Hein. Excusez-moi. Hein, non, mais j'imagine qu'on en apprend sur les végétaux aussi,
ouais,
sur un tas de choses.
Ouais. Sur des arbustes, des arbres, des plantes, des légumes, des fleurs, enfin oui...
Ah, c'est donc le jardin au sens très large, c'est-à-dire
oui,
que
voilà,
vous travaillez également le jardin, je dirais, d'agrément, le jardin décoratif et aussi le jardin potager, non ?
Ouais, c'est ça. On a des vignes aussi. On a des parterres. Oui, on a des fruits aromatiques et des fruits exotiques. Ça.
Alors vous produisez ici sur l'IMPRO, vous produisez des fruits et des légumes alors ?
Oui voilà c'est ça, oui c'est ça.
Vous les mangez ? Vous les gardez pour vous ou ça passe après sur le service cantine, c'est pas cantine, hein, ça avait un autre nom
le
mais
self.
Voilà le self, ça passe sur le self ou c'est des trucs que vous gardez entre vous à l'atelier ?
Bah des fois.
Et aussi l'atelier ADVF aussi.
ADVF, oui. Voilà c'est ça.
Ouais, ça dépend.
Ça dépend, ça dépend de la quantité quoi.
Voilà c'est ça.
ADVF, donc c'est l'atelier que vous suivez, là. Vous récupérez des choses, alors,
Ça dépend, des fois, oui.
J'imagine que vous cuisinez, alors, sur cet atelier ADVF.
Oui.
Vous cuisinez, vous, Alicia ?
En ce moment, là, je n'ai pas trop cuisiné, mais sinon, oui.
Alors, quel genre de choses vous apprenez à cuisiner ?
Des gâteaux, des trucs sucrés-salés, je ne sais pas.
A priori, normalement, à la fin, vous allez savoir concevoir un repas entièrement,
oui.
Quoi.
Oui.
C'est ça, l'objectif. Vous avez une spécialité, Alicia ?
Le sucré.
Le sucré ? Non, les gâteaux, les trucs comme ça. C'est ça ?
Mm.
Ouais, je suis bon client aussi. Anthony, donc vous avez fait d'autres ateliers, vous ? Vous avez fait Espace Vert, vous avez fait d'autres...
J'ai fait métallerie, j'ai fait menuiserie, j'ai fait quoi d'autre ? Cuisine aussi, oui. ADVF.
Mais vous êtes revenu une deuxième fois sur l'atelier Espace Vert. C'est parce que c'est l'atelier qui correspondait le plus à vos attentes.
Oui, voilà, c'est l'atelier qui me plaît. J'adore toucher à la terre, les machines. J'adore voir ce que je fais. Quoi.
Normalement, du coup, a priori, vous allez, si on se projette un petit peu, ce serait vous chercheriez un emploi après, par la suite, autour des espaces verts, alors.
Oui. Oui, enfin, ouais, j'ai déjà choisi, c'est une ESAT, enfin un ESAT. Voilà, c'est... J'aimerais travailler en espace vert dans un ESAT.
Très bien. Voilà. Alors, ça se prépare, j'imagine. Vous me disiez tout à l'heure que vous allez bientôt avoir 18 ans. Alors,
j'imagine 28 juin.
Ouais. 28 juin. C'est peut-être pas une limite c'est 20 ans, voilà. Madame Segal derrière nous dit c'est 20 ans la limite. Donc du coup, vous avez encore un peu de temps. Est-ce que vous irez est-ce qu'au bout d'un moment, vous vous dites dès qu'il y a une place qui se libère pour entrer aux espaces verts, j'y vais? Est-ce que vous êtes prêt à y aller? Est-ce qu'il y a encore du boulot? Il y a encore des choses à faire? Comment ça se passe?
Il y a encore du boulot, mais si j'aurai la possibilité d'y aller...
Ouais, vous foncez, quoi.
Oui, voilà, c'est ça.
Du moment que c'est possible, très bien. Voilà. Vous, Alicia, alors vous êtes plus jeune.
Oui.
Comment se construit le parcours? Est-ce qu'il y a encore d'autres ateliers à faire ou tout de suite vous dites, bon, bah là, ça y est, je me suis orientée, je vois où je peux aller, je suis prête. Oui. Comment ça se passe?
Bah, ça dépend après les ateliers qu'on veut faire.
Vous, il y a encore d'autres ateliers que vous souhaitez faire?
Non.
Vous avez trouvé votre atelier. Oui. Voilà. Et alors du coup, il reste encore pour vous, selon vous, il y a encore du temps à passer dans l'atelier pour être prêt à aller sur un emploi directement?
Je sais pas.
Non, vous savez pas?
Non.
Vous êtes, voilà, il y a encore des choses à travailler, en tout cas, sur l'IM Pro. Est-ce que vous y êtes bien, l'IM Pro? Alors, on peut tout dire, ils n'écoutent pas les encadrants.
Lydia, on est super bien. Oui, c'est génial, quoi, l'IM Pro. C'est bien.
Est-ce que, évidemment, il y a une notion, est-ce que dans le travail, parce que finalement, vous travaillez hein, quand même.
Oui, oui.
Est-ce que dans le travail, c'est important de se sentir bien, d'être à l'aise, d'avoir des collègues, d'avoir des relations avec les chefs aussi, hein, du coup, qui sont aussi les encadrants, parfois. C'est, ça se passe bien et comment c'est régulé? Comment est-ce qu'au bout d'un moment, quand ça ne va pas, quelqu'un vient pour l'échange? J'imagine qu'il y a un accompagnement aussi qui se fait. Comment ça s'organise cet accompagnement? Ce sont des rendez-vous réguliers ou c'est à la demande ou c'est on vous sollicite? Comment ça se passe?
C'est des rendez-vous réguliers. On demande un rendez-vous secrétaire et...
Ils nous le donnent.
Et voilà. Après, ils nous donnent tel jour, on peut y aller.
D'accord. Et à l'issue de cet entretien, on recadre éventuellement ce qu'il y a à faire. Peut-être on change d'atelier quand c'est le moment de changer d'atelier.
Oui, voilà aussi.
Ou discuter avenir professionnel, quand c'est l'heure de discuter avenir professionnel.
C'est ça.
J'ai la sensation, Anthony, qu'on est proche de ces discussions avec vous. Hein. Je sens que c'est assez déterminé. Monsieur Domingo,
bonjour.
Vous êtes représentant des parents d'élèves.
Tout à fait.
Du coup, vous siégez au conseil de vie sociale. J'imagine que ce que nous venons d'évoquer, notamment avec Alicia et Anthony, fait partie des préoccupations des parents d'élèves, de discussion en tout cas du conseil de vie sociale. Comment fonctionne ce conseil et quelles sont les préoccupations de ce conseil de vie sociale?
Le conseil de vie sociale est réuni plusieurs fois par an. Et donc il y a les différents représentants de la structure, il y a l'encadrement, les éducateurs, la direction, les élèves et parents d'élèves par mon pied, par le pied aussi d'une mère de famille. La direction a voulu assurer la parité dans la représentation des parents d'élèves, ainsi que dans les élèves aussi, c'est un garçon et une fille. Et les questions sont remontées par divers biais, soit par une adresse mail, soit par courrier. Et on présente les questions des parents, pour ma part, la question des parents lors de la réunion à la direction. Les élèves, eux, par leurs représentants, présentent aussi leurs questions, qui peut aller du côté éducatif ou du côté pratique et matériel qu'on puisse avoir, soit en internat, soit lors des ateliers ou les cours. Et ce qui permet d'avoir un échange et puis d'amener l'expérience de chacun. Et puis amener, rassurer aussi les familles, et puis en tant que parents, on se pose plein de questions, et ça permet de nous rassurer sur le fonctionnement, et puis avoir des précisions, si quelqu'un a une idée, ça permet de faire évoluer les choses.
Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que les familles sont intégrées du coup au fonctionnement des ateliers, ou en tout cas des structures?
Autant que se faire que se peut, oui. Enfin, c'est toujours pareil. Mais on a des questions qui remontent. Et puis, tout parent d'élève est intéressé par ce qui se passe dans l'école. Et puis, dans tout ce qu'il peut y avoir dans une scolarité comme là, qui est associée avec atelier plus une scolarité théorique.
Dans les propos que vous tenez, vous parlez d'école, vous parlez d'enseignement. Tout à l'heure, en début de plateau, on parlait alors, avec des abréviations issues du jargon professionnel. Vous avez, vous, cette sensation qu'on est plus proche d'une école, finalement, que d'un institut qui serait spécialisé. Enfin, comment...
Non,
parce que dans votre vocabulaire, vraiment, j'entends... J'aurais un parent d'élève de l'école, je ne sais pas, ils en barrent en centre-ville, ce serait le même discours, vous voyez.
C'est plus que ça. C'est plus que ça, parce que c'est un institut, c'est une structure qui englobe l'éducation théorique, l'éducation pratique, mais aussi toute la mise en avant d'une autonomie de l'enfant. Parce qu'il y a divers degrés dans l'handicap. Et la structure, la RONCE tient particulièrement à ce que l'enfant soit, en tant que parent d'élève, on l'a ressorti, qu'il soit autonome et qu'il puisse un maximum, suivant le grade de son handicap, puisse devenir autonome et puisse devenir indépendant.
C'est quelque chose, Alicia et Anthony, que vous sentez qu'on vous pousse à devenir autonome, qu'on vous amène les outils pour que vous débrouillez.
Oui.
C'est important. Enfin, vous sentez que c'est une part importante de ce que vous travaillez.
Oui.
Voilà. Excusez-moi, j'en profite pour rebondir. C'était une des questions que nous n'étions pas posées avec Alicia et Anthony. Donc voilà, c'est cette notion voilà, de...
Tout à fait, parce que des fois, il y a des sorties sous encadrement, naturellement, qui est faite en ville et on leur laisse... c'est pas l'éducateur qui fait des petits achats, c'est véritablement l'enfant qui va faire son achat pour qu'il soit habitué à être autonome, à acheter son ticket, à acheter son sandwich, à acheter son petit DVD, à récupérer la monnaie, à recompter la monnaie, à récupérer le ticket de caisse. Tout ce qu'on peut avoir, nous, dans une vie courante de personnes normales, mais dans une personne avec un certain handicap, c'est pas forcément évident. Et c'est l'apprentissage, c'est une passerelle, en fait. C'est véritablement un relais.
Le regard de parents que vous avez, comment vous portez le regard sur le travail qui est fait, sur, notamment sur toute cette partie enseignement?
Le regard, en tant que parent d'élève, plus qu'un regard, c'est un réel sentiment, c'est un soulagement. Parce que quand tu as ton enfant qui est dans une structure normale, il faut avoir certaines capacités et avoir une certaine autonomie. Quand tu as ton enfant handicapé qui ne l'a pas, tu as une structure comme celle-ci. Clairement, c'est une chance d'avoir son enfant dans une structure, il faut se le dire. Parce que dans une scolarité normale, malheureusement, il n'aurait pas eu les capacités de suivre le cursus normal. Là, c'est une réelle chance. Et puis, il est porté, en fait. Il y a une réelle mise en avant de l'autonomie et de l'apprentissage. Et on est rassuré. Ouais, en tant que parent d'élève, on est rassuré. Et puis, c'est vraiment très, très plaisant d'avoir ce type de structure. Parce qu'on se dit, finalement, c'est un travail complémentaire par rapport à nous, à notre travail de parent d'élève, quoi.
Quelles sont les préoccupations principales des parents d'élèves? Parce que du coup, vous êtes représentant des parents d'élèves. Ouais. J'imagine que vous pouvez centraliser beaucoup de leurs préoccupations. Et quelles sont les préoccupations qui reviennent régulièrement, ou plus souvent, ou de manière récurrente?
Il y a différents types de préoccupations. Les préoccupations matérielles. Bon, la prise en charge financière, elle est présente, elle est là, donc elle ne se pose pas. Au début, si, les gens qui ne connaissent pas très bien la structure. Après, surtout les préoccupations d'ordre de transport, ou l'organisationnel au niveau du scolaire ou des différents ateliers. Après l'organisationnel des différents voyages de fin d'année, des choses comme ça, ou des apports en matériel qui auraient pu être faits, enfin des choses qui sont résolues et puis sans aucun souci, quoi.
J'ai envie de vous dire, si les préoccupations sont logistiques et organisationnelles, c'est qu'a priori sur la partie pédagogie et puis objectif, c'est que ça a l'air d'aller.
Oui.
Très bien. Bah, merci à vous, monsieur Domingos. J'aurais bien aimé quand même poser une dernière question. Alors du coup, peut-être plus à Lydia. Dans tous ces échanges, et notamment monsieur Domingos, nous relevait le fait que voilà, c'était une opportunité, une chance pour ses parents, un soulagement même d'avoir un accompagnement. Moi, j'ai une question autour des places, du coup. J'imagine que les places sont limitées. Et est-ce qu'il manque des places pour accueillir d'autres élèves? Est-ce qu'on en laisse en attente?
Oui, effectivement. Alors, je vous disais tout à l'heure, l'IMPRON a une capacité d'accueil de 80 jeunes. Nous sommes déjà en train de préparer la rentrée de septembre prochain. Et nous savons déjà que nous accueillerons 82-83 jeunes pour... voilà. Oui, nous avons beaucoup de jeunes, beaucoup de demandes et effectivement beaucoup de jeunes en attente qui ne rentreront sûrement pas au vu de leur âge dans nos établissements. Il manque,
donc, il manque encore des places d'accueil, oui. Malgré ce que nous soulignait Monsieur Domingos, la satisfaction de voilà d'avoir un accueil pour les enfants. Il y en a encore qui ne peuvent pas bénéficier.
Tout à fait.
Parce que voilà, les places sont limitées.
Complètement.
Voilà, c'était la dernière question que je me posais et il me semblait essentiel de conclure avec ça. Merci à tous les intervenants d'être passés par nos micros. Nous étions en direct, en live, en public de la Ronce, où nous sommes bien en fait. On a le soleil dans le dos. Enfin, ça, surtout pour toi, Michel. Hein. Moi, ça va, je ne l'ai pas encore. Ça chauffe. Hein.
Ah oui.
Voilà. Nous étions en direct. Nous avons passé un bon moment à essayer de comprendre un petit peu comment fonctionnait la Ronce, quels étaient les enjeux, les prises en charge, le fonctionnement, les objectifs et puis l'avenir de tout ça. Cette émission touche à sa fin. Vous pouvez tout de même la retrouver dans la catégorie podcast sur notre site internet principactif.net pour ceux qui écoutent la radio. Hein. Elle sera disponible très très bientôt. À la réalisation, à la conception, à l'empackagement de cette émission, arrête de rire Michel. Hein. Nous avons Michel qui a posé les questions. Nous avions Damien qui a réalisé le reportage et qui nous a mis bien installé. Et nous avions Monsieur Pignon à la réalisation. Et ben voilà, c'est fini Monsieur Pignon. Allez, à bientôt.
Les émissions des quartiers.
C'était impressionnant quand même.